Marc chapitre 8, versets 31 et 32. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer. Bonjour à tous, frères et sœurs. Je vous propose une méditation brève aujourd'hui, mais sans être intense. Une méditation intense sur l'importance de la croix. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse contempler la croix, non seulement dans la théorie et dans l'histoire, mais dans le contexte et en relation avec nos pensées. Que l'on puisse contempler la croix en relation avec nos pensées. Pas simplement en théorie ou dans son histoire, dans les événements qui ont conduit Jésus à sa croix. Pour introduire notre méditation, j'aimerais qu'on puisse contempler brièvement un principe qui nous est déclaré dans le psaume 44. Dans le psaume 44, versets 21 et 22. Si nous eussions oublié le nom de notre Dieu, si nous eussions étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu n'en aurait-il pas fait enquête, lui qui connaît les secrets du cœur? Si ces choses étaient arrivées, si on en était arrivé à ce point-là, et si nous en sommes arrivés là, que nous ayons oublié le nom de notre Dieu dans nos actions et dans nos plus profondes pensées les plus secrètes, si nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, vers un idole, vers des imaginations vaines, comment est-ce que Dieu réagirait à cela? Dieu n'en aurait-il pas fait enquête, lui qui connaît les secrets du cœur? La parole de Dieu ici nous déclare que lorsque tel est le cheminement de nos pensées, de nos cœurs, eh bien, si nous ne sommes pas endurcis, si nous n'avons pas livré nos cœurs au mal pour marcher dans les voies du méchant telles que nous les avions lues la semaine dernière, à la différence de la voie du juste, du sentier du juste qui est comme la lumière resplendissant jusqu'à ce que le jour soit dans sa perfection, si nous ne nous sommes pas engagés sur ce sentier des méchants qui est l'obscurité, mais que nos cœurs sont encore ouverts, mais que nous avons oublié le nom de notre Dieu, que nous avons étendu nos mains vers un Dieu étranger, vers un idole, vers quoi que ce soit qui puisse séparer nos affections de Dieu, que ferait Dieu alors? Que nous dit la parole de Dieu sur l'attitude qu'a Dieu vis-à-vis de cela? Il en fera enquête, lui qui connaît les secrets du cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse découvrir dans sa parole comment Jésus, tout particulièrement dans sa relation avec ses disciples, a fait enquête vis-à-vis d'une certaine idole qu'ils avaient dans leur cœur, qui les faisait oublier le nom, le caractère, la vraie mission de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est notre introduction. Dieu, il connaît les secrets de notre cœur et il fera tout en son pouvoir. Si nous n'avons pas endurci nos cœurs et que nous ne nous sommes pas fermés entièrement à son Saint-Esprit, il fera tout en son pouvoir pour corriger la trajectoire de nos pensées. Si nous avons oublié le nom de notre Dieu et si nous avons étendu nos mains vers une idole dans notre cœur. Allez avec moi, allons ensemble vers notre lecture biblique qui sera le centre de notre méditation aujourd'hui, dans Marc chapitre 8 et verset 31. J'aimerais qu'on puisse marcher dans les pas de ces disciples-là pour qu'on puisse faire l'expérience, notamment celle de Pierre, faire l'expérience que les disciples ont faite et que Pierre a faite, comme nous allons le voir. Traverser cela et obtenir cette réalisation de la croix. Marc chapitre 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Et il tenait ses discours tout ouvertement. Alors Pierre, le prenant avec lui, se mit à le censurer. Pierre se mit à censurer Jésus. Et je crois que nous trouvons exactement les paroles de Pierre à Jésus dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 22. Alors Pierre, l'ayant pris à part, ayant pris à part Jésus, se mit à le reprendre et à lui dire « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point, cela ne t'arrivera point. » Et avant que l'on poursuive maintenant, j'aimerais que l'on puisse s'arrêter et écouter ce que l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, a à nous dire sur ces événements-là et la trame spirituelle qui court à travers ces choses qui nous sont rapportées ici dans la parole de Dieu. Je lis ici dans Jésus-Christ à la page 410 et au paragraphe 2. Et suivant. Les disciples s'attendaient toujours à ce que Christ régnât en qualité de prince temporel. Ils pensaient que bien qu'il eût si longtemps caché son dessein, il ne resterait pas toujours dans la pauvreté et l'obscurité. Le temps approchait, se disait-il, où il établirait son royaume. Vous avez ici les secrets du cœur des disciples. C'était ce à quoi ils s'attendaient. C'était ce qu'ils pensaient. Ils s'imaginaient que le temps approchait où il établirait son royaume sur la terre. Ils ne voyaient pas la croix. Ils voyaient la couronne sur la terre pour lui et pour eux. Je poursuis. Que la haine des prêtres et des rabbins fût invincible, que Christ dût être rejeté par sa propre nation, condamné comme séducteur et crucifié comme un malfaiteur, une telle pensée n'entrait pas dans l'esprit des disciples. Que fera Dieu lorsque nous avons oublié le nom de notre Dieu ? Tel que c'était le cas pour eux, ils ne savaient pas. Ils étaient absorbés à l'intérieur d'eux par cette anticipation du royaume, qu'il pensait être sur le point de venir. Cependant, l'heure de la puissance des ténèbres approchait, et il fallait que Jésus montrât aux disciples la lutte qui était devant eux. Le pressentiment de l'épreuve le rendait triste. Jusqu'ici, il s'était abstenu de leur parler de ses souffrances et de sa mort. Il est vrai qu'il avait dit au cours de son entretien avec Nicodème, entre guillemets, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Mais les disciples n'avaient pas entendu ces paroles, et même s'ils les avaient entendues, ils ne les auraient pas comprises. Maintenant, ils ont vécu avec Jésus, écoutant ses paroles, contemplant ses œuvres, et ils peuvent s'associer au témoignage de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et cela malgré l'humiliation de son entourage et l'opposition des prêtres et du peuple. Le moment est venu de soulever le voile qui cache l'avenir. Dès lors, et c'est le verset que nous lisions, d'ailleurs c'est dans un autre évangile, mais qui rapporte exactement cette même événement, dès lors Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus était en train de soulever le voile qui cachait l'avenir pour aider ses disciples à réaliser la croix. Sa croix. Mais Jésus avait à l'esprit, et sait aussi pour nous, qu'il était indispensable pour eux de comprendre que la croix venait, sa croix, pour qu'eux ne se dérobent pas à leur croix. Parce que sa croix serait pour eux une croix, et Jésus voulait les préparer à cela. Les disciples écoutaient muets de douleur et d'étonnement. Christ venait d'accepter la déclaration de Pierre concernant sa filiation divine, que nous lisons juste avant, dans Marc chapitre 8, verset 29, où Jésus avait demandé à ses disciples. Il interrogea ses disciples en disant « Qui donc, qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent, verset 28, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, et les autres Élie, et les autres l'un des prophètes. » Et il leur dit, Jésus leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre, répondant, lui dit, « Tu es le Christ. » Donc, Christ venait d'accepter la déclaration de Pierre concernant sa filiation divine, je reprends. Et donc, les allusions qu'il faisait actuellement à ses souffrances et à sa mort leur paraissaient incompréhensibles. Il avait accepté cette confession de Pierre qu'il était le Christ, le Fils même du Dieu vivant. Mais maintenant, il annonçait qu'il allait se faire renier, sacrifié par sa propre nation. Et donc il y avait ces deux choses qui, à leurs yeux, étaient contradictoires et qu'ils n'arrivaient pas à réconcilier. Et ici, je m'arrête un instant pour que nous puissions faire le parallèle et réaliser, ne serait-ce que maintenant un instant, la croix pour nous. Parce qu'il se peut que nous aussi, nous lisions les promesses de Dieu, mais que liées à ces promesses, nous soient déclarées des épreuves et des renoncements de soi ininterrompus jusqu'à la fin de notre préparation pour le ciel. Et donc ces choses peuvent sembler être en conflit, quand bien même en théorie nous acceptons la véracité et l'harmonie de ces choses dans la pratique, frères et sœurs. C'est là que nous voulons saisir la leçon que ces disciples, les disciples de Jésus, ont dû saisir dans leur propre expérience à travers de terribles déceptions. Nous lisons leurs déceptions, nous lisons leurs attentes, nous percevons leurs vives attentes d'un royaume et d'un prince temporel, mais qui furent écrasés, brisés en mille morceaux. Et de cela, de leurs expériences, il nous faut tirer les leçons pour nous, parce qu'il y a aussi, nous ferons aussi exactement cette expérience-là, et c'est la raison pour laquelle ces élargissements nous sont fournis par l'esprit de prophétie. Ces choses ont été écrites comme des exemples pour nous sur qui les fins du monde sont parvenues, comme c'est écrit. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens. Donc maintenant, les allusions qu'il faisait actuellement, les allusions qu'il faisait actuellement à ses souffrances et à sa mort leur paraissaient incompréhensibles. Pierre ne put garder le silence. Il saisit le maître comme pour l'arracher au sort dont il était menacé et s'écria « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Pierre, il se faisait le héros de Jésus. Il croyait qu'il sauvait son sauveur de sa mort. Et nous lisons la réponse de Jésus. Nous la connaissons, mais nous voulons la lire pour absorber son application réelle dans le parallèle que nous rencontrons et nous rencontrerons dans notre vie, de cette croix. Marc chapitre 8, verset 33. Mais Jésus, se tournant et regardant ses disciples, censura Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Je poursuis toujours le témoignage de Jésus qui vient expliquer, élargir ses propres paroles, cette propre censure qu'il a adressée à Pierre. « Arrière de moi, Satan !» Après que Pierre ait pensé juste de censurer son maître. Je lis Jésus-Christ, page 411, au paragraphe 3. Pierre aimait son Seigneur. Pierre aimait son Seigneur. Et donc, il pensait manifester son amour pour son Seigneur en disant cela. Cependant, Jésus ne le félicita pas d'avoir ainsi exprimé son désir de lui épargner des souffrances. Il ne le félicita pas. Les paroles de Pierre n'étaient pas de nature à encourager et à consoler Jésus en vue de la grande épreuve qui l'attendait. Elles étaient en désaccord avec le dessein de la grâce divine concernant un monde perdu et avec la leçon que Jésus était venu enseigner par son propre exemple. Pierre n'aimait pas voir la croix dans l'œuvre de Christ. Et ces paroles risquaient de créer une impression diamétralement opposée à celle que Christ désirait produire sur l'esprit de ses disciples. Hein, vous remarquez ici que Jésus avait une impression qu'il désirait produire sur l'esprit de ses disciples. Lorsque Jésus dit quelque chose, il a toujours en vue notre purification, notre édification, notre sanctification, notre préparation, notre salut. Mais les paroles de Pierre qu'il adressa à Jésus en lui disant, en voulant lui épargner ses souffrances que Jésus était en train de prophétiser, de prédire, ces paroles-là de Pierre, elles manifestaient le fait qu'il n'aimait pas voir la croix dans l'œuvre de Christ. Vous réalisez un peu. Mais la croix, c'est le centre. Mais Pierre n'aimait pas voir cela. Il n'aimait pas voir la croix dans l'œuvre de Christ. Et ici, je m'arrête un peu. Parce que tel est également notre problème aujourd'hui. Parce que quand bien même, nous acceptons, nous approuvons, nous consentons à la vérité, à l'historicité de la croix, même au concept qu'il y a une croix à porter pour le croyant, quand bien même cela fait partie de notre profession personnelle de foi, que nous maintenons cela, que nous professons, même peut-être que nous prêchons cela, eh bien, il existe dans le cœur de l'homme une aversion pour la croix dans l'œuvre de Jésus-Christ. Une aversion qui nous mène à fuir la réalité pratique de la croix dans notre vie, à travers laquelle Jésus désire modeler notre caractère et transformer nos vies et contrôler à travers notre consentement nos agissements, nos actes et nos paroles. L'homme charnel, frères et sœurs, il n'aime pas voir la croix dans l'œuvre de Christ. Je le sais parce que j'ai souvent fait cette expérience que la chose la plus difficile à partager, c'est l'amour de Dieu, tel qu'il nous est présenté, manifesté, prouvé dans la croix de Jésus. C'est le plus dur pour moi à présenter. Je le confesse amèrement, le plus difficile à présenter. Et ce qui devrait être le centre de nos méditations, contemplation de la parole de Dieu, c'est la croix. Mais c'est exactement cette croix qui est si insupportable pour l'homme qui vit selon la chair, quand bien même il a une apparence de piété. Je reprends cette phrase-là. Pierre n'aimait pas voir la croix dans l'œuvre de Christ et ses paroles risquaient de créer une impression diamétralement opposée à celle que Christ désirait produire sur l'esprit de ses disciples. Aussi le Sauveur fut-il amené à prononcer l'une des réprimandes les plus sévères qui soient jamais sorties de sa bouche, de point « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Satan s'efforçait de décourager Jésus et de le détourner de sa mission. Pierre, dans son amour aveugle, se faisait l'écho de la voix du tentateur. C'est le prince du mal qui lui avait inspiré cette pensée. Cet appel irréfléchi était dû à son instigation, à celle de Satan. Au désert de la tentation, au désert, Satan avait offert à Christ la domination du monde s'il voulait seulement renoncer à fouler le sentier de l'humiliation et du sacrifice. Il renouvelait aujourd'hui la même tentative auprès du disciple de Christ. Ah, vous vous rappelez? Cette dernière tentation du diable, où le diable s'est présenté à Jésus, il lui a dit: « Tous ces royaumes de la terre, je te les donnerai si seulement tu te prosternes et que tu m'adores. » Eh bien, il fait la même chose avec le disciple de Christ, avec nous, frères et sœurs. Il fait la même chose. Et que fait-il? Il dit: dors un peu dans une marche de vie charnelle et tu peux avoir des plaisirs sur cette terre. Et Jésus avait résisté à cette offre du diable où il lui était proposé la domination du monde s'il voulait seulement renoncer à fouler le sentier de l'humiliation et du sacrifice. Et maintenant, Jésus, qui avait déterminé de fouler ce sentier, il présentait aux disciples, à ses disciples, ce sentier qu'il s'apprêtait à fouler jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, et qui allait être aussi leur sentier. Parce que, étant donné que c'était leur roi lui avait confessé, qu'il s'était dévoué, engagé à son service, eh bien, ce qui allait lui arriver, allait leur arriver. Mais Pierre, il disait, non, ça ne m'arrivera pas. Il pensait venir en aide à Jésus, mais en fait, il essayait de s'épargner cette croix dans l'œuvre de Christ. Nous essayons ici, par la grâce de Dieu, de tracer un parallèle entre leur expérience et la nôtre. Comment nous aussi, nous agissons à l'intérieur de nous, si ce n'est par nos actes et nos paroles, comment nous agissons à l'intérieur de nous et comment après cela va trouver une expression par nos faits et gestes, comment nous agissons à l'intérieur de nous, comment nous réagissons face à cette annonce de Dieu à nous, de cette croix imminente, ou cette croix présente. La manière non spirituelle, charnelle d'y répondre, c'est de dire, non, 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 ça ne se passera pas comme ça, tu vas être roi, tu vas être roi. Nous apprenons, nous réalisons, nous obtenons une réalisation de la croix. Une réalisation personnelle de la croix. Satan, je reprends, il renouvelait aujourd'hui la même tentative auprès du disciple de Christ. Il s'efforçait de fixer les yeux de Pierre sur la gloire terrestre afin qu'il n'aperçût pas la croix vers laquelle Jésus voulait diriger ses regard. C'est ce qu'il fait aussi, frères et sœurs. Maintenant, ces derniers instants du scellement des 144 000, il s'efforce de fixer les yeux du disciple sur les gloires terrestres, afin que nous n'apercevions pas la croix vers laquelle Jésus désire diriger nos regards. La croix d'où découle toute bénédiction sur la terre et dans le ciel. Par l'intermédiaire de Pierre, Satan assiégeait à nouveau Jésus de ses tentations. Mais le Sauveur, préoccupé au sujet de son disciple, ne prêtait aucune attention à cette tentative. Satan se plaçait entre Pierre et le Maître pour empêcher le cœur du disciple d'être touché par la vision de l'humiliation que Christ subissait pour lui. Christ s'adressa donc moins à Pierre qu'à celui qui s'efforçait de séparer le disciple de son Rédempteur et dit de point « Arrière de moi, Satan, cesse de te placer entre moi et mon serviteur égaré. Laisse-moi face à face avec Pierre pour que je puisse lui révéler le mystère de mon amour. » Voilà ce que cela voulait dire. Ce n'était pas une manière de sévèrement reprendre pour humilier Pierre. C'était, comme je le lis ici, c'était plus adressé à celui qui s'efforçait de séparer Pierre de son Rédempteur qu'à Pierre lui-même. C'était un effort, une expression de la part de Jésus, où il cherchait à regagner une intimité avec son disciple. Et cette intimité, au centre de cette intimité, il avait érigé ce monument inévitable de la croix. Et il disait au diable, arrière, cesse de placer entre moi et mon serviteur égaré. Cesse de lui obscurcir sa vision pour qu'il ne puisse discerner la gloire de Dieu dans la croix qui m'est réservée et que je subis pour lui. Nous lisons. Satan se plaçait entre Pierre et le maître pour empêcher le cœur du disciple d'être touché par la vision de l'humiliation que Christ subissait pour lui. À chaque instant que nous sommes détournés de cet horizon inévitable et promis et prédit de la croix de Christ dans notre existence, qui est tout aussi amère pour nous qu'elle l'était pour les disciples, et pour Jésus, à chaque fois que nous sommes détournés de cet horizon-là, eh bien, nous sommes empêchés, notre cœur est privé de cette vision de l'humiliation que Jésus a subie pour nous. Mais quand nous entrons dans cette croix, quand nous marchons sur ce sentier où Jésus a foulé le premier, alors, nous sommes touchés par cette vision de Jésus et sa croix qu'il subit pour moi. Vous voyez pourquoi c'est l'effort du diable de placer plus ou moins, plutôt, de fixer plutôt nos yeux sur les gloires terrestres pour nous empêcher de discerner la gloire de la croix et l'amour de Jésus qui y est renfermé. L'amour de Dieu. Et donc au verset 34 à 36, nous avons ce fameux appel qui était si peu la bienvenue surtout pour Pierre et pour tous les disciples. Parce que nous lisons que quand Jésus s'est fait attraper par la foule, la nuit, dans le jardin de Gethsémané, qu'ils s'enfuirent tous. Donc, ils s'enfuirent, ils fuirent la croix, au moment même où Jésus avait le plus besoin d'eux, pour qu'ils puissent, pour ainsi dire, se charger aussi de leur croix avec lui. Mais ils s'enfuirent tous. Et donc, Jésus ici, à la suite de cette censure adressée à Pierre, il dit aux disciples, au Marc chapitre 8, verset 34. Et appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? » En d'autres termes, Jésus ici disait, qu'est-ce que cela vous gagnera si vous reniez la croix? Il dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même. Ce que Pierre était si hésitant et à faire, ce qu'il désirait si peu de faire. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous comprenez ici cette vision élargie que Jésus donnait de ses propres souffrances. Il disait, moi j'y vais, et si vous voulez vraiment être mes disciples, eh bien vous n'allez pas faire comme Pierre vient de faire. Chaque personne qui veut me suivre, qu'il se charge aussi de sa croix comme moi. Et qu'il ne me dise pas, qu'il n'essaie pas de m'épargner ses souffrances, j'y vais pour toi, pour vous, mes disciples. Et si vous êtes mes disciples, vous ne refuserez pas la coupe amère de la croix, la réalisation de la croix. C'est un appel solennel, frères et sœurs. Et cet appel est d'autant plus lourd de sens et de conséquences pour nous qui vivons sur ces derniers instants du temps de grâce. Je lis encore une fois dans Jésus-Christ à la page 412 et au paragraphe 2. C'est lentement que Pierre parvint à apprendre cette leçon amère que le sentier de Christ sur la terre passe par l'agonie et l'humiliation. Hein? C'est une leçon qu'il n'apprit que lentement. Et nous aussi, il se peut que cela nous prenne du temps pour l'apprendre. Mais puissions-nous ne pas détourner nos regards de l'élargissement et la confirmation de cette leçon par le Seigneur et par le Saint-Esprit. Puissions-nous recevoir cette réalisation que le Seigneur souhaite aujourd'hui affermir en nos cœurs. C'est lentement que Pierre parvint à apprendre cette leçon amère, que le sentier de Christ sur la terre passe par l'agonie et l'humiliation. Il lui fallait abandonner ces idées qu'il avait tant nourries à l'intérieur de lui, tant chéries. Il lui fallait abandonner ces choses-là et réaliser et accepter que c'était aussi son sort s'il voulait vraiment être le disciple de son Seigneur. Jésus lui avait dit, si vous voulez vraiment être mes disciples, vous ne pouvez pas y couper. Parce que le disciple sera comme son maître. Et moi, votre maître, je vais à la croix. Le disciple répugnait à communier avec son Seigneur dans la souffrance. Vous voyez, c'est cela lorsque nous nous écartons du chemin du devoir. C'est vraiment là le centre du problème. C'est est-ce que je suis prêt à communier avec Jésus dans la souffrance. Hein? Parce que comme c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 4, je crois, celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Ainsi donc, frères et sœurs, pour que nous soyons parmi ces 144 000, sans faute devant le trône de Dieu, sans aucun péché en nous, il nous faut passer par cette expérience qui est celle de Jésus avant tout, qui est celle d'une souffrance dans la chair. Parce que celui qui a souffert dans la chair, comme nous le lisons, a cessé de pécher. Afin qu'il ne vive plus dans ce monde selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, pour que nous vivions parfaitement en harmonie avec la volonté de Dieu, il nous faut passer par cette souffrance dans la chair. C'est une souffrance de quoi? C'est le renoncement. C'est faire mourir les œuvres de la chair et vivre selon l'Esprit. Selon que l'Esprit nous guide, selon que l'Esprit oriente nos pensées vers ce qui est pur et noble et saint. Pierre ne voulait pas de cela. Le disciple répugnait à communier avec son Seigneur dans la souffrance. Mais c'est la fournaise ardente qui lui ferait apprécier cette communion. Qu'est-ce qui nous fera apprécier cette communion? La fournaise de l'épreuve. Et donc cela donne un sens extrêmement approfondi et élargi des épreuves. Ce n'est pas juste des épreuves pour nous purifier, quoi que ce soit cela. Ce sont des épreuves pour nous assister et nous aider à nous faire apprécier cette communion avec Jésus dans la souffrance. Pas une souffrance qui est purement une souffrance comme celle qu'ont les hommes dans le monde, une souffrance de circonstance qui n'est pas née d'une conviction et d'une détermination à faire la volonté de Dieu, mais une souffrance, comme j'y ai fait allusion, qui est dans la chair du renoncement. La fournaise ardente lui ferait apprécier cette communion. Et ensuite, vous avez vitesse rapide en avant, et on nous dit que longtemps après, quand son corps fut courbé sous le poids des années et des labeurs, le corps de Pierre. Il écrivit, elle cite 1 Pierre chapitre 4 versets 12 à 13. Bien-aimés, ne soyez point surpris de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Mais réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que, lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. Réjouissez-vous, dit-il. Ne soyez pas surpris de cette fournaise qui est là pour vous éprouver. Mais réjouissez-vous de quoi? De ce que vous participer aux souffrances de Christ. Que disait-il? Il disait, vous êtes en train de communier. Ne soyez pas comme moi. Je ne voulais pas communier, oh! Pas communier dans la souffrance. Hein, nous voulons bien communier dans le chant des cantiques, dans tout ce qui ne va pas à l'encontre de nos désirs personnels, mais communier dans la souffrance, dans la chair. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut apprendre à nous, il nous faut apprendre à nous en réjouir. Réjouissez-vous de ce que vous participez aux souffrances de Christ, afin que lorsque sa gloire sera manifestée, vous soyez aussi comblés de joie. La fournaise, ce n'est pas uniquement des circonstances adverses extérieures à vous. C'est peut-être une fournaise à l'intérieur de vous. D'ailleurs, j'y vais dans 1 Pierre chapitre 4. C'est les deux, frères et sœurs. Ce sont les épreuves extérieures à vous sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise et que nous ne pouvons pas changer. Et il y a aussi, après, les choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'il nous faut apprendre à dompter et pour lesquelles nous avons reçu l'exemple de Jésus. Je lis dans 1 Pierre chapitre 4, versets 1 et 2. Christ ayant donc souffert pour nous dans la chair, vous aussi, armez-vous de cette même pensée. C'est une arme. C'est une arme dans la pensée. Vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Eh bien nous, frères et sœurs, il nous reste si peu de temps. Mais Dieu attend et précipite les événements pour que nous soyons encouragés à apprécier la communion dans les souffrances de Christ qui a souffert pour nous dans la chair. Vous aussi, armez-vous de cette même pensée que celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. Il devient comme Jésus, qui n'a pas péché. Et pour conclure notre méditation, frères et sœurs, j'aimerais que l'on puisse se tourner vers cette merveilleuse citation de l'esprit de prophétie qui se trouve dans Premiers Écrits, à la page 67 et au paragraphe 1 et 2. Le ciel sera bon marché si nous l'obtenons par la souffrance. Bon marché, ce sera à très petit prix. Même si on y arrive, si nous l'obtenons par la souffrance, il sera bon marché. Il faut renoncer au moi constamment, mourir au moi chaque jour. Seul Jésus doit vivre en nous, ayant toujours en vue sa gloire. Hein? Toujours, à chaque moment, lorsque nous parlons avec des hommes et des femmes dans la vie quotidienne, ayons toujours en vue sa gloire. Seul Jésus doit vivre en nous. Il nous faut quoi? Mourir au moi chaque jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Communier avec lui. Ce n'est pas seul que nous faisons cela. C'est une communion à laquelle il nous invite et dans laquelle il désire que nous partagions, dans laquelle il désire que nous nous lions à lui. Et c'est pour cela qu'il prévenait, qu'il avertissait ses disciples. Voilà, le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup de la part des sacrificateurs et être tué. Et ressusciter le troisième jour. Mais avant la résurrection, il y avait une fin de vie au-delà de laquelle il n'arrivait pas à comprendre. Mais nous, nous voulons comprendre que quand bien même nous mourrons au moi, eh bien, Jésus peut vivre en nous. Ainsi donc, notre vie ne se termine pas à notre croix, de la même manière qu'elle ne s'est pas terminée à la croix de Jésus. Mais nous ressuscitons en Christ. Et nous pouvons avoir la vie dans le Saint-Esprit, quand bien même nous sommes constamment appelés à renoncer au moi chaque jour. Seul Jésus doit vivre en nous, ayant toujours en vue sa gloire. Toujours en vue. Je vis que ceux qui venaient d'accepter la vérité. Hein? Ici, elle parle vis-à-vis de ceux qui n'ont pas traversé ces expériences, qui n'ont pas directement traversé ces premières expériences du premier, du deuxième et du troisième ange d'Apocalypse chapitre 14. Elle parlait maintenant de personnes qui sont arrivées après eux, après les pionniers de l'Église adventiste. Et elle disait, je vis que ceux qui venaient d'accepter la vérité devraient apprendre à souffrir pour le Sauveur, savoir supporter de dures épreuves afin d'être purifiés et de recevoir le sceau du Dieu vivant, passer par le temps de trouble, voir le roi dans sa beauté, habiter en la présence de Dieu et des anges saints et purs. Nous devrions. Elle a vu que ceux qui venaient après elle, les nouveaux, comme on pourrait dire, ils devraient apprendre à souffrir pour le Sauveur, à supporter de dures épreuves. Pourquoi ? En vue de quoi ? Afin d'être purifiés et de recevoir le sceau du Dieu vivant. Nous avons vu dans notre étude précédente que ceux qui reçoivent ce sceau, qui sont purifiés, humiliés et purifiés, et qui reçoivent ce sceau du Dieu vivant, ce n'est autre que les 144 000. Ce chiffre littéral. Ces personnes qui se retrouvent sans fraude dans leur bouche, sans tache, avec l'agneau sur la montagne de Sion, donc qui voient le roi dans sa beauté et qui finalement habitent en la présence de Dieu et des anges saints et purs. Il nous faut apprendre à souffrir pour le Sauveur et à supporter de dures épreuves pour être parmi ces personnes-là. Lorsque je vis que nous devions être dans les conditions voulues pour pouvoir hériter de la gloire éternelle, et combien Jésus avait souffert pour nous obtenir ce riche héritage, je priais pour que nous soyons baptisés dans ces souffrances, afin que nous ne faiblissions pas sous l'épreuve, mais que nous la supportions avec patience et avec joie. Sachant que Jésus a souffert pour que, par sa pauvreté et ses souffrances, nous fussions enrichis. L'ange dit, renoncez à vous-même, avancez vite. D'aucuns ou certains parmi nous ont eu le temps de progresser dans la vérité, d'avancer pas à pas. Et chaque pas qu'ils ont fait les a fortifiés pour continuer. Hein, les premiers adventistes, ils ont eu ce temps de progresser dans la vérité, de découvrir cette vérité sous la tutelle de l'esprit de prophétie. Mais aujourd'hui, le temps est presque fini. Aujourd'hui, en son temps, elle nous disait cela. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, frères et sœurs? Aujourd'hui, c'est presque fini. Et ce que nous avons mis des années à apprendre, eux, ceux qui ont eu des années pour apprendre, d'autres devront l'apprendre en quelques mois. Il leur faudra aussi beaucoup désapprendre pour pouvoir beaucoup apprendre. Ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et son image au moment où le décret sera promulgué doivent manifester maintenant de la décision et dire non. Nous n'observerons pas l'institution de la bête. Vous voyez ici ce préambule prolongé de préparation pour être en mesure de finalement refuser la marque de la bête. Elle nous dit, ceux qui ne voudront pas recevoir le verbe à la forme future, ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et son image au moment où le décret sera promulgué, doivent manifester maintenant de la décision et dire « Non, nous n'observerons pas l'institution de la bête ». Et comment est-ce que cela se manifeste dans notre vie, cette expression ? En faisant ce que nous venons de voir aujourd'hui. En renonçant à nous-mêmes, en marchant dans les traces de pas de Jésus, en foulant le sentier qu'il a lui-même foulé juste de la croix. De la croix, c'est ce sentier de la croix du calvaire qu'il nous faut nous exercer à fouler et à ne pas quitter. Voilà, frères et sœurs, j'espère que cette méditation nous sera profitable. Et puissions-nous revenir vers ces déclarations pour garder à l'esprit les leçons qu'il nous faut apprendre et qu'il nous faut garder. Cette leçon même-là que Pierre a pris tant de temps à absorber. Puissions-nous recevoir et préserver cette réalisation de la croix. De la croix de Jésus qui nous a confié et qui nous a apporté, qui nous a appelé à porter à sa suite. C'est ma prière que l'on puisse garder ces choses à l'esprit et à cœur et avoir toujours en vue sa gloire et nous rappeler que pour que l'on puisse manifester sa gloire, il faut que nous marchions sur le sentier de la croix. Amen.